Est-ce visible que Dieu règne en moi ? Les questions que nous nous posons dans la plus large réflexion de comment faire avancer le royaume de Dieu là où j'en suis, c'est-à-dire en moi, et là où je suis, c'est-à-dire autour de moi. Vaste question, grand défi. La dernière fois, nous avons considéré cela dans l'Église. L'Église avec un grand E qui est le lieu privilégié. J'espère pas seulement censé être le lieu privilégié, mais effectivement le lieu d'apprentissage et d'exercice du fait que nous sommes royaume de Dieu. Là où, je vais mettre des guillemets, visiblement, Dieu règne, et je mets des guillemets exprès pour nous titiller un peu, sont-elles nécessaires ces guillemets ou est-ce une réalité ? L'Église comme école de vie, école de la vie chrétienne, école de la vie selon Dieu, là où on apprend ce que ça veut dire, là où de façon privilégiée on met en pratique ce que l'on a la joie d'avoir découvert, et en particulier des choses comme l'amour ou le pardon, dans un environnement, je l'espère, favorable, dans une pépinière de chrétiens. Réalité ou doux rêve ? Il ne tient qu'à nous que de le vivre. En tout cas, Dieu le veut, je le crois. J'en suis sûr. Ainsi, dans l'Église, nous avons comme souci et souhait particulier l'édification. Édification mutuelle et fraternelle. Aider le frère et la sœur à grandir, à se construire, tout en ayant bien conscience de notre propre besoin aussi de croissance. C'est ça l'Église, normalement. Un des aspects de l'Église, en tout cas. Notamment, la dernière fois, nous avons considéré, entre autres exemples, les vecteurs que peuvent être ce que l'on fait et comment on le fait, ce que l'on dit et comment on le dit. Comme nous y enjoint Jésus, faisons du règne et du royaume de Dieu notre préoccupation première. Pour nous-mêmes, pour les frères et sœurs, ensemble. Et on l'avait dit, les temps communautaires en Église doivent être ces lieux et temps privilégiés pour nous équiper, et nous équiper notamment pour tout le reste de notre temps et de nos activités. 97 et 99% de notre temps se passe en effet en dehors de l'Église bâtiment. Cela doit donc nous préoccuper en Église pour nous aider et nous équiper pour dehors, et en particulier pour ce qui concerne, on l'avait mentionné, les quatre cercles ou sphères ou réseaux relationnels principaux auxquels nous sommes confrontés ou impliqués, la famille, le travail et les études, le voisinage, les loisirs et les amis. Et ce matin, je voulais aborder les deux premiers, mais j'ai tellement de choses à dire sur le premier thème qui est la famille, donc on va considérer que ça ce matin, la famille, et on verra les autres la semaine prochaine pour clore cette thématique. Franchement. Faisons du règne et du royaume de Dieu notre préoccupation première dans nos familles. Je suis royaume de Dieu dans ma famille. Est-ce que j'en ai conscience ? Est-ce que j'y arrive à le vivre ? Est-ce visible ? Pendant les temps de famille, nous sommes peut-être royaume aussi avec notre conjoint. Et c'est un privilège, si tel est le cas, c'est une grâce de pouvoir partager cet essentiel. Rendons alors grâce à Dieu. Mais ce n'est peut-être pas le cas si nous vivons seuls, célibataires, divorcés ou veufs, ou si nous sommes mariés avec un conjoint pas encore converti. Nous sommes peut-être au royaume avec nos enfants, encore une grâce, mais là encore peut-être pas. Peut-être qu'ils n'ont pas encore fait ce pas de foi, ou peut-être que nous n'avons pas d'enfants. Et même vis-à-vis d'un conjoint chrétien ou d'enfant chrétien, on le sait, ce n'est pas toujours rose, pas toujours facile. Peu probable, en effet, que l'un d'entre vous arrive à dire que c'est facile d'être au royaume de Dieu à chaque instant, que c'est facile de vivre le règne de Dieu de façon exemplaire, sans même parler de façon parfaite, dans ou vis-à-vis de nos familles. Si quelqu'un a la recette miracle, je lui cède la place et j'écoute et je prends volontiers des notes. La question se pose, bien sûr, pour aussi notre famille élargie, même si ça concerne peut-être moins notre quotidien, pas de la même façon. Frères, sœurs, parents, grands-parents, enfants adultes, voire petits-enfants, cousins, oncles, tantes, etc. Est-ce visible que je suis royaume de Dieu dans ma famille ? Alors ce matin, je vais plutôt considérer la famille proche, où nos limites sont plus facilement connues de nos proches, nos défauts, et même régulièrement, nos proches nous poussent à nos limites. La famille proche qui nous a vus grandir ou qui nous côtoie au plus près. En général, on n'arrive pas trop longtemps à leur égard à faire semblant. Si ce que l'on dit ou ce que l'on fait n'est pas profond en nous, si ce n'est qu'un vernis, alors évidemment ça craquelle rapidement. C'est valable pour moi en tout cas. Les bonnes intentions sont souvent vite limitées si elles ne sont pas le fruit d'un changement intérieur que Dieu a opéré et que seul Dieu peut opérer. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, dit Dieu. Et on a discuté de ça ces dernières semaines à l'étude biblique, notamment en abordant la parabole du bon samaritain. On évoquait plutôt le prochain étranger, lointain. Mais cet amour du prochain commence bien évidemment premièrement par nos familles, nos conjoints, nos enfants, nos parents. Et un verset de Timothée assez dur qui dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un non-croyant. » C'était dans le contexte particulier concernant à l'époque les problèmes matériels de soutien, de prise en charge, de subsistance, d'accueil de la famille et notamment des parents. Mais par les mots très forts qu'il utilise, et c'est le moins qu'on puisse dire, on peut bien sentir que la famille doit encore aujourd'hui avoir une place particulière dans nos occupations et préoccupations. Dieu nous le demande, me semble-t-il. Et pourtant, on pense sûrement parfois avoir de bonnes raisons de l'envoyer balader un peu, la famille, si je peux me permettre cette expression. Et si, comme moi, vous avez déjà cherché dans la Bible des exemples ou des exhortations relatives à la famille, force est de constater que les exemples dans l'Ancien Testament sont rarement exemplaires pour le coup. Et il faut aussi reconnaître que les exhortations du Nouveau Testament ne sont de prime abord en général pas à faire ressortir le côté formidable de la famille. Il ne faut pas vraiment rêver. Et je vais volontairement être quelque peu provocateur. Ça passe pas, Pedro, mets la 3, s'il te plaît. En citant le verset, en choisissant comme base le verset qui est certainement un des plus décriés, controversé en la matière de famille et de couple, à savoir Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Je vais me faire engueuler, rouspéter à la fin du culte. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Très porteur, ce verset, n'est-ce pas Frédéric évoquait une loi dont on se demandait si elle était bonne dans la première partie du culte. Qu'est-ce qu'on fait de ce genre de verset? Je ne sais pas si c'est la conséquence annoncée lors du péché originel d'Adam et Ève, avec cet avertissement de Dieu qui dira « Ton mari dominera sur toi ». Annonce qui n'est cependant pas une bonne excuse pour mal dominer. Ou bien si c'est l'appropriation consciente ou inconsciente de la maxime de Jean de La Fontaine, plus tardive, mais c'est cependant vrai de tout temps depuis la chute, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Mais ce qui est sûr, on ne peut le nier, c'est qu'à cause d'un machisme culturel, pour ne pas dire un machisme naturel, il y a certainement eu des siècles, que dis-je, des millénaires, d'abus en tout genre de la part de l'homme masculin à l'égard des femmes, y compris et en particulier des épouses. Et ce verset a pu servir d'excuse. Pour ce qui concerne la mise en pratique, pourtant, le contexte du verset me semble souvent avoir été oublié, et c'est peu de le dire, car il apporte pourtant un bel équilibre dans les familles qui doit absolument faire partie de l'équation. Alors, on ne va pas pouvoir faire toute une théologie du couple ce matin, une théologie dont je suis moi-même d'ailleurs très mauvais à mettre en pratique. Mais il est déjà intéressant de noter que les spécialistes s'accordent désormais pour convenir que l'original du verset 22 ne devait en fait pas contenir le verbe « soumettre ». C'est le verset 21 qui le contient et il n'est pas répété dans le verset 22. Les traductions récentes le montrent désormais et il faut donc bel et bien lire à minima les deux versets ensemble pour en comprendre la pensée. Et donc je les lis dans la Nouvelle Bible Second. « Soumettez-vous les uns aux autres » dans la crainte de Christ. Ainsi les femmes à leur mari, comme au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. L'exemple de la femme vis-à-vis de son époux, au sein d'une soumission demandée, requise, ordonnée, les uns par rapport aux autres, les uns envers les autres. Donc dans une réciprocité certaine, au sein du couple aussi. Combien même cela n'implique pas nécessairement une interchangeabilité ou un caractère identique des rôles, et combien même cela n'empêche pas un certain leadership de l'un par rapport à l'autre. Mais la logique égalitarienne du monde n'est nécessairement pas la bonne, car l'égalité, selon Dieu, a souvent une saveur et une teneur différentes. Qui, entre parenthèses, confronte aussi le travers actuel de la société de faire croire que l'homme peut être femme et la femme peut être homme dans leur rôle, voire même dans leur identité. Mais ça, c'est un autre sujet. De tels versets risquent cependant certainement les féministes, et dans de nombreux cas d'abus de leadership, pour ne pas dire d'abus d'autorité de l'homme, du mari, dans le cadre de la famille. Je suis entièrement d'accord avec les féministes qui ont pu chercher à rééquilibrer les choses. Mais malheureusement aussi, les féministes sont souvent parties dans d'autres excès et sont largement sorties du cadre voulu par Dieu. Et c'est peut-être pour cela que ces versets sont là aussi, pour peut-être souligner ce risque, cette propension féminine ou féministe. Et en même temps, je la comprends, cette propension. Car elle est souvent, pas toujours, mais souvent aussi la conséquence de ce que l'homme masculin a, lui, le premier, oublié le cadre voulu par Dieu. Et ce cadre est clairement... On a changé la télécommande, elle devait marcher, elle marchait tout à l'heure. C'est toujours quand on l'essaye, ça marche, mais quand on en a besoin, elle ne marche jamais. Bon, il y a un décalage. Voilà, ce cadre est clairement exposé dans le contexte des versets, et j'en lis quelques-uns, hein, à la suite de ce verset 22 du chapitre 5 d'Éphésiens, versets 25, 28, 33, qui disent « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amour exclusif, amour absolu, amour don, amour abandon de Christ pour l'Église, pour chacune des personnes composant l'Église. Nulle mauvaise domination ici. Mais des commandements... seulement possible en Christ, là où Dieu règne vraiment. Soumettez-vous donc à Dieu, écrira l'apôtre Jacques. Soumettez-vous donc à Jésus, est en fait tout le message et l'appel de l'Évangile. Et il n'est pas difficile de se soumettre à Dieu quand on découvre qui est réellement Dieu. Il n'est pas difficile de se soumettre à Christ quand on découvre réellement qui est Christ. Il ne devrait pas être difficile de se soumettre l'un à l'autre si cet autre vit à l'exemple de Christ. Il ne devrait pas être difficile de se soumettre l'un à l'autre si cet autre vit à l'exemple de Christ. Encore petite parenthèse, c'est peut-être parmi d'autres raisons le pourquoi il est explicitement contraire à la volonté de Dieu que nous nous marions ou que, a fortiori, que nous ayons une vie de couple avec une personne non convertie qui ne peut pas se placer sous le regard de Christ et suivre son exemple. C'est pour ne pas se mettre sous une contrainte et un fardeau qui ne peut que peser à un moment ou à un autre et nuire à notre relation avec Dieu, nous obliger à des compromis, sinon des compromissions, sans même parler du fardeau de la perdition de l'autre. Fin de la parenthèse. Évidemment, ce n'est pas naturel pour moi non plus de vivre à l'exemple de Christ. Il y a souvent un léger décalage, très léger, en ce que lui ferait et ce que nous faisons. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à vivre mieux cela ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas mieux à vivre cela ? Différentes raisons sans doute. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer, écrira l'apôtre Pierre. Pierre qui sait bien ce que c'est que faillir. Ce n'est pas une excuse pour pouvoir dire « c'est pas de ma faute, c'est Satan ». Car nous restons responsables de nos choix, nous restons responsables de nos actes. Mais pour sûr, lui, le diviseur, il n'a qu'un objectif. Valable tout particulièrement pour les familles. Lui, ennemi invisible, mais aux effets bien visibles. Divergence, incompréhension, insatisfaction, conflit, tromperie peut-être, puis division, violence peut-être, et au final rupture, pour qu'il n'y ait plus de famille et plus de couple. Voilà bien son objectif à lui, le calomniateur et le destructeur. Oui, combat spirituel il y a, c'est sûr, de façon certaine. Et aussi le monde, tout en dénonçant la violence, le monde dit aussi avec une certaine promotion, dans une promotion certaine, il n'y a qu'à regarder le moindre série, le moindre film, le monde nous dit « oui, c'est logique, c'est normal, s'il n'y a plus d'amour, si vous avez fait le bout de chemin que vous deviez faire ensemble, eh bien passez à autre chose, passez à autre chose, suivez votre désir et vos envies ». C'est ça que nous dit le monde. Combat de valeurs, de principes et de logique aussi. Ne vous conformez pas au siècle présent, écrivait encore Paul. Et je crois que c'est absolument vrai pour ce qui concerne notre vie de famille, notre vie de couple. Plus inconsciemment que consciemment, j'espère. Mais la société, le monde infuse nos esprits, nos cœurs, nos logiques. Et ça impacte certainement la façon de percevoir, de concevoir et de vivre la famille. Elle a un temps de latence important, celle-là. Contrairement à la citation sur cette photo, qui dit « Quand on demande à un couple comment ils ont fait pour rester ensemble 65 ans, on peut demander à Paulette comment ils ont fait, par exemple. » La femme répond « Nous sommes nés à une époque où lorsque quelque chose se casse, on le répare, on ne le jette pas. » Contrairement à cette citation, nous sommes quelque peu dans la génération du jetable, et pour le couple et la famille aussi, malheureusement. Nous sommes en effet tellement imprégnés, imbibés même peut-être, de la société humaine, de valeurs et de principes, d'automatismes de fonctionnement du monde, d'une façon de concevoir et de vivre les relations aux autres, que c'est réellement en galère de s'en extirper, de changer de logique. Et ce n'est pas la plupart des choses que l'on voit, que l'on lit ou que l'on entend dans les médias, à l'école ou ailleurs, qui nous aident à avoir des bases saines et justes. Rapport de force plutôt que rapport d'humilité. Égocentrisme plutôt qu'altruisme et service. Compréhension que tout doit contribuer à mon bien-être personnel et relations de court terme plutôt que relations de toute une vie, d'abord pour l'autre et pour le Seigneur. Tant de conflits, d'objectifs différents, de façon de voir les choses différentes. Pas facile. Seigneur, à l'aide. Et le Seigneur nous aide, en tout cas veut nous aider, si nous voulons aussi de son aide. En tout cas, contrairement à ce que l'on pourrait des fois croire, avec quelques désillusions, nous ne sommes pas, au bout de quelques années, coincés entre soit d'un côté la platitude d'une vie de couple, de famille, faite de routines manquant de saveur, où on fait semblant plus qu'autre chose, ou bien où on a le droit qu'à l'abnégation, l'oubli de soi et un fardeau permanent. Il faut faire avec. Adieu le bonheur. C'est pas toujours aussi simple, mais des fois, on ne vit pas plus, parce qu'on ne croit pas à plus. Et la religiosité de nos églises a parfois aussi poussé en ce sens. Hein. Ou l'autre alternative serait simplement un échec assuré, où l'on fuit ses responsabilités, on rompt ses engagements, tellement plus facile. Et d'où, sous l'illusion d'une herbe plus verte ailleurs, on va voir ailleurs. Là serait mon bonheur. Il n'y est pas non plus. Si la base est bancale, ça ne peut pas être le bonheur. Dieu ne veut pas le couple comme une routine. Dieu ne veut pas la famille comme un carcan oppressant ou privateur de liberté et d'épanouissement. La rigueur religieuse l'a malheureusement souvent présenté et vécu comme cela. Bien heureusement, je crois, dans ma naïveté habituelle, diront certains, alors même je sais que le projet de Dieu est bien plus beau que ça, bien plus ambitieux que ça, bien plus extraordinaire que ça. Sinon, c'est qu'il n'est pas Dieu. On parle quand même de son royaume, hein. Ce n'est pas nécessairement la vie de château tous les jours. Mais oui, on parle de son royaume, du royaume de Dieu dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Ce n'est pas rien. Si l'amour décline, ou pour grandir dans l'amour, venez à moi. Je suis l'amour. Je suis la source, la seule qu'il vous faut, nous dit Dieu. Ce n'est pas inversé, mais c'est ma compréhension de sa personne et de sa volonté. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Ça, c'est un verset. Parole de Jésus, rapportée dans l'évangile de Jean. Jean 10:10. Je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Est-ce seulement pour ce qui concerne le salut ou pour tous les aspects de la vie? Est-ce seulement pour plus tard? Et pour le moment, faut se contenter d'une vie un peu nulle. Pas top, en tout cas. Moi, je sais que c'est pour ici et maintenant, dans tous les aspects de ma vie. Alors, évidemment, il y a des limites et des contraintes ici-bas. Ce serait mensonge que de professer le contraire. Mais c'est aussi un mensonge de croire que la volonté de Dieu pour ma famille, pour mon couple et pour moi-même, c'est que nous ayons une vie mitigée, moyenne, entre deux eaux, ni pleinement épanoui, ni vraiment pourri non plus, mais bon, un peu bof quand même. Mensonge, mensonge. Et je ne peux m'y résoudre. Je veux une vie abondante. Je veux une vie abondante. Seigneur, je veux une vie abondante en toi et par toi, à vivre et à partager en couple, en famille en particulier. Aide-nous, aide-nous. Oui, le projet de Dieu est certainement différent de celui culturellement et naturellement répandu. Faisons du règne et du royaume de Dieu notre préoccupation première, à compenser dans nos familles. C'est sûr que dans un couple, il faut être deux à le vouloir. Alors, ce n'est pas toujours des plus évidents. Mais déjà, est-ce que moi-même, j'ai commencé ou continué à le vouloir, à prier pour cela? Ou est-ce que j'attends que ce soit mon conjoint qui commence? Mes enfants qui commencent ou mes parents qui commencent? Suis-je moteur? C'est peut-être là où le leadership du mari doit réellement faire son travail. Quand je dis ça, je sens bien que ça coince chez moi aussi. Est-ce que je veux réellement vivre à l'exemple de Christ? Est-ce que je le lui demande? Est-ce que je lui le demande jour après jour de m'aider à vivre à son exemple? C'est très basique, mais c'est certainement comme ça que commence concrètement le règne et le royaume de Dieu. Un petit couac avant-hier avec Aurore. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller la voir après en sortant en disant « Ouais, c'était quoi ton petit couac là ?» Et la nuit suivante, un sommeil perturbé. Mais peut-être perturbé pour pouvoir prier instamment cette demande. Et Dieu, dans sa grâce, intervient. Et aplanit nos sentiers, apaise et change nos cœurs. Ce n'est pas magique, mais c'est divin. C'est divin. À lui, la gloire et ma reconnaissance. Que j'appuie 5 minutes avant pour que ça passe. Et sur des aspects concrets, pour être au royaume et règne de Dieu, bye bye, par exemple, condescendance, moquerie, mauvaise jalousie, mensonge, hypocrisie, égocentrisme, attirance vers d'autres personnes. C'est aussi un choix à faire. Et Seigneur, aide-moi, aide-moi. Et en lien avec ça, je commencerai donc par le constat fondamental et premier, en tout cas pour moi, et j'en suis sûr pour vous aussi, mais même si beaucoup diront peut-être que c'est un constat d'échec, qui peut donc ne peut amener qu'à l'échec. Moi, je dis que non, c'est le contraire. Le constat de mon insuffisance personnelle et le constat de l'insuffisance personnelle de mon épouse, de l'insuffisance de mon fils. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, disait encore Jésus. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quand on le sait, quand on l'admet, on part sur de bonnes bases. On part sur de bonnes bases. Et cette semaine, on se questionnait avec quelqu'un sur la façon dont on devait réagir, ce que l'on devait dire et faire quand un de nos enfants, qui pourtant connaît Dieu, déconne. J'utilise volontairement mieux le mot, hein, pardonnez-moi. S'il déconne, s'il couche, s'installe, même avec un ou une non-chrétienne. Situation difficile, mais qui devient peut-être plus fréquente qu'avant. Comment on est royaume et règne de Dieu dans ce genre de circonstances? Colère et excommunication? Dehors, on ne veut plus te voir. Ou tolérance et silence coupable? Ou partage vérité de ce que la Bible en pense, et ce que l'on en pense aussi, avec un amour inconditionnel maintenu. Et prière et intercession, bien sûr. Pas facile, hein, ce genre de situation. Ça aussi, ça, nos familles peuvent connaître ça. Comment suis-je royaume de Dieu dans ma famille en de telles situations. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pour moi, c'est effectivement le bon constat de départ. Pas humiliant du tout, puisque c'est le Seigneur qui nous le dit. Avec toute la magnifique attention et l'amour indéfectible qu'il nous porte, avec tout le soutien qu'il y associe et nous offre, pas avilissant ou infantilisant non plus d'ailleurs. Et sur cette base-là, on peut donc mentionner quelques aspects dans le désordre. On les connaît. Désolé, je ne vais pas rien vous apprendre, mais on a certainement besoin d'y grandir et de s'y encourager mutuellement aussi. Communication. Un des mots-clés certainement dans le couple et dans la famille, dire les choses. Alors, je ne vais pas revenir sur la... J'aurais dû la remettre, celle-là, la diapo de la dernière fois, sur la façon de le dire, sur le timing pour le dire, avec ce fruit de l'esprit qui nous anime, hein, pour pouvoir le dire comme il le faut. Mais l'autre n'a généralement pas une boule de cristal pour tout deviner. Alors, c'est vrai que ça aide quand on partage. Communication. Pardon aussi. Pardon. Un absolu également, ce qui n'empêche pas de savoir et de devoir pointer certains problèmes qu'il peut y avoir. On confond souvent pardon avec un certain laxisme. Prière et implication de Dieu, bien sûr, sans les essentiels, est-ce possible, franchement ? Respect. Le respect est exprimé dans mes attentes, dans mes gestes, pardon, dans mes paroles. Oui, la façon de me comporter avec mes proches est certainement un point de vigilance. Amour, avec un grand A, celui que Dieu nourrit et donne. Mon foyer est-il un lieu de paix, de joie, d'accueil, de vérité, de justice, de tempérance ? Compassion, en voyant les faiblesses. Sagesse et modération. Esprit de service, fidélité. Bon, quand on dresse une liste comme ça, c'est peut-être un peu décourageant. Mais non, voyons cela comme encourageant, au contraire, comme un encouragement de la part de Dieu. Cet encouragement, car c'est le reflet de ce que Dieu voudrait que nous vivions avec nos proches. C'est encourageant parce que c'est ce que Dieu voudrait que nous vivions avec nos proches et c'est ce qu'il nous offre. Pas juste un ordre pour lequel il dit « débrouillez-vous maintenant ». Non, Dieu ne nous dit pas « débrouillez-vous », mais il dit « je suis là ». Oui, c'est la liste de ce que Dieu voudrait que nous vivions avec nos proches. Saisissons cela. Évidemment, tous ces éléments ne sont pas nécessairement une exclusivité chrétienne, mais certains si. Et en tout cas, pour celles et ceux qui, comme moi, pour qui ce n'est pas naturel, alors il n'y a que Christ qui peut nous transformer et nous permettre de le vivre. Que le Christ. Ce n'est pas utopique, c'est possible, c'est son programme. Je le crois, je le veux. Et vous ? Ainsi Dieu règnera et je serai son royaume. Assurément. Amen. Je vous invite à quelques instants de réflexion avant que je ne prie. Oui, Seigneur, je n'ai sûrement pas souvent la même ambition que toi pour ma propre vie, pour mon propre couple ou pour ma famille, trop influencé par le monde. Satan a peut-être aussi la partie trop facile en arrivant à semer la calomnie, la pagaille, les problèmes. Seigneur, je veux regarder à toi, je veux m'attendre à toi en reconnaissant que sans toi, je ne peux rien. Je ne me sens pas honteux de cela, mais au contraire, je veux me réfugier en toi, m'approprier toutes tes grâces, m'appuyer sur toi et profiter de tout ce que tu veux partager, de tout ce que tu veux donner. Te laisser prendre toute la place pour que ça soit quelque sorte toi qui agis à travers moi, toi qui parles à travers moi. C'est vrai que j'en suis encore souvent très loin, très très loin. Merci pour ta patience et ta fidélité, Seigneur, envers moi et envers chacun et chacune d'entre nous. Oui, nous voulons, j'en suis convaincu, c'est notre désir le plus profond, nous voulons être le lieu où tu règnes, nous voulons être ce royaume de Dieu, là où tu nous places, pouvoir vivre cela parce que nous savons que c'est la clé de notre bonheur. Et combien c'est difficile au quotidien, combien facilement la routine ou les problèmes nous rattrapent et on se laisse submerger. Seigneur, tu demandes des choses impossibles, tu ordonnes des choses impossibles, mais elles sont possibles en toi, elles sont possibles avec toi. Pouvoir vivre de façon épanouie et de façon joyeuse une soumission mutuelle. C'est impossible, mais en toi c'est possible, avec toi c'est possible. Seigneur, qu'on en prenne conscience toujours davantage, oui, de ce besoin de dépendre de toi. En tout cas, je demande ta bénédiction, Seigneur, sur chacun et chacune des personnes ici présentes, ceux peut-être qui nous suivent à distance, ceux qui ne peuvent pas être là. Seigneur, que ta main bénissante soit sur chacun et chacune, pour nous aider à comprendre davantage qui tu es, qui nous sommes, notre place avec toi, et que tu bénisses nos relations de couple, nos relations de famille, pour que nous puissions vivre ce plan merveilleux que tu as pour nous, cette vie en abondance que tu veux que nous ayons. Peut-être avons-nous déjà échoué. Peut-être sommes-nous dans une impasse. Tu es aussi le Dieu des renouveaux. Tu es le Dieu du pardon. Tu es le Dieu de la grâce. Aide chacun, en particulier celles et ceux qui sont peut-être blessés, à guérir. À être vivant de nouveau par ta grâce. Et que nous sachions, Seigneur, rester dans les clous, rester sur ton chemin. Tellement facile, effectivement, de s'écarter, de faire des compromis ou des compromissions avec la vérité, avec ta volonté. Montre-nous, Seigneur, que rester dans ta voie, ce n'est pas rabat-joie, ce n'est pas une brimade ou une restriction. Non, au contraire, c'est la clé du vrai épanouissement. Nous voulons le vivre, Seigneur. Aide-nous à le vivre. Aide-nous à le vivre. Merci pour toutes tes grâces, Seigneur, encore en Jésus-Christ. Merci parce que c'est extraordinaire ce que tu veux nous offrir. Oui, nous voulons le saisir, nous voulons le vivre. Merci de ton aide. En Jésus-Christ. Amen.